le magazine des Nations Unies.
Le président Félix Tshisekedi s'en va en guerre contre la corruption. Il a exprimé sa détermination et son engagement à combattre ce fléau qui ronge la RDC à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Des détails dans un instant. Après une période de lutte contre les violations des droits civils et politiques, les mouvements citoyens appelés à se tourner vers la défense de droits économiques, sociaux et culturels. Une vingtaine de ces mouvements ont pris part du 10 au 11 juillet à un atelier de formation en droits humains, travaux organisés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Des détails dans cette édition. Notre philosophie est une philosophie d'engagement actif au bénéfice de la population congolaise en partenariat avec le gouvernement. C'est en résumé la mission du représentant spécial adjoint AI du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations. François Grignon, qui remplace David Wesley à ce poste, est l'invité du magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue au magazine des Nations Unies. L'actualité de la semaine commence par la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, commémorée le 11 juillet de chaque année. En 2019, le thème retenu est « Vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs ». À Kinshasa, la cérémonie commémorative a été présidée personnellement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier des Congolais a exprimé sa détermination et son engagement à lutter contre ce fléau qui gangrène toutes les catégories sociales du pays. Il a annoncé à cette occasion une série de mesures de répression et de prévention, notamment la création au sein de son cabinet d'un service spécialisé de coordination pour le changement des mentalités. Cette cérémonie a été organisée par l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Jean-Pierre Ilalikoko, reportage.
Le président Félix Tshisekedi a d'abord retracé l'historique de la corruption, une corruption qui a pris plusieurs formes, de la colonisation au régime de Joseph Kabila, en passant par la période de la Deuxième République. Une telle situation de corruption ne peut ni être tolérée, ni être entretenue, a martelé le chef de l'État en tapant du poing sur la table. Pour y arriver, il préconise un train de mesures.
Je vais signer et déposer les instruments de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte. Cette ratification permettra sans nul doute à la République démocratique du Congo de récupérer les avoirs et les produits de transactions de la corruption disséminés dans les paradis fiscaux. Je prends aussi l'engagement de pouvoir solliciter et obtenir du Parlement la modification de la loi électorale en ce qui concerne le mode d'élection des députés provinciaux, des gouverneurs.
Et sur le plan institutionnel, le chef de l'État annonce la création d'une structure au sein de la présidence.
Je vous informe de la création, sous peu, au sein de mon cabinet, d'un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement des mentalités, qui aura entre autres missions d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'anti-valeurs.
Mais auparavant, le directeur général de l'OSEP, le professeur Mwendabani Saint-Augustin et le ministre d'État à la fonction publique Michel Bongongo se sont félicités de voir pour la toute première fois un chef d'État s'impliquer personnellement dans la lutte contre les grands fléaux qu'est la corruption.
Pour les droits de l'homme, une cinquantaine de jeunes venus de 22 mouvements citoyens de la RDC ont participé à un atelier de formation en droits de l'homme. L'accent a été mis ici sur les droits économiques, sociaux et culturels. Autre précision avec Honoré Missinga Kalala.
En dehors de ses propres experts en droit de l'homme, le bureau conjoint a fait appel au directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie, Régène en sigle, Bishop Abraham Diamba. Celui-ci a développé à l'intention des participants plusieurs notions telles la bonne gouvernance, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette dernière implique notamment, a-t-il insisté, que les citoyens soient associés dans toutes les actions concernant leur intérêt. Bishop Abraham Diamba.
Puisque, dès le départ, on a vu, non, le pouvoir du peuple. Donc, il ne faut pas le mettre à l'écart lorsqu'on est sur le point de décider des politiques publiques. Il il faut qu'il soit associé. Donc c'est même plus fort que cela. Les citoyens doivent être associés, impliqués. À partir du moment où un ministre a une idée, ministre de l'enseignement, il a une idée sur ce qu'il veut faire. Et c'est dès la conception que le citoyen est associé.
Message bien reçu par les participants qui promettent de jouer le rôle selon les modules appris.
Joseph Bahati, ski RDC. Mes impressions personnellement sont positives compte tenu des modules qu'on a eu à approfondir et à examiner tout au cours de cette formation. Surtout les modules concernant le contrôle du budget, ce qui concerne les finances publiques de l'État. Parce que nous, comme mouvement citoyen, organisation des droits de l'homme, on ne comprenait rien sur la modalité de mise en œuvre du budget. Mais avec la formation, on a été outillé, on comprend comment contrôler l'État et mener des vérifications sociales quant à ça. En dehors de ça, nous avons eu les modules sur l'ABDH qui est une approche de vérification ou de travail pour l'élaboration de certains projets dans le cadre des droits de l'homme. Et cela nous a été aussi utile parce qu'on sait comment se comporter pour élaborer un projet pour la protection des droits des citoyens congolais. Par rapport au programme des 100 jours du président de la République, en tant que mouvement citoyen, nous, on va évaluer la mise en œuvre de ce programme, voir s'il va tenir à ce qui est planifié et voir aussi comment le budget sera utilisé dans ces cas-là.
Gauthier Miller Kassongo, je suis point focal du mouvement citoyen de défiance politique Bissau Peuple. Non mais écoutez, c'est une grande satisfaction pour moi parce qu'on a pu recadrer les tirs. Vous savez que avant le départ de la personne de M. Kabila, nous étions plus dans la lutte en revendiquant plutôt le droit civil et politique. Mais aujourd'hui, avec une telle formation, je crois qu'on s'est plus axé sur les desks, donc les droits économiques, sociaux et culturels, les droits qui feront assez que le quotidien du Congolais s'améliore. Donc c'est une joie vraiment pour moi. Nous allons faire juste notre mission, c'est-à-dire la mission de la surveillance citoyenne. Donc on saura comment poursuivre et regarder la gestion de notre pays. Donc c'est-à-dire s'il y a un projet, on saura comment s'est fait son élaboration, les budgets, l'exécution. Donc on fera juste la surveillance citoyenne.
Ce que je pourrais ajouter, c'est que quand on sera sur terrain, il y aura vraiment un changement par rapport aux résultats de mouvements citoyens ou société civile, je peux dire. Parce qu'à l'époque, tout le monde attendait à ce que quand il y a activité, quand il y a marche, il y a revendication sit-in, c'est surtout sur le droit civil et politique. Et actuellement, ça va changer. Et du coup, ça ne sera plus un slogan « le peuple d'abord », ça sera maintenant une réalité avec l'appui et l'aide de mouvements citoyens aussi.
Tous ont exprimé leur gratitude envers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et émis le vœu de voir celui-ci multiplier ce genre de formation, y compris dans toutes les provinces du pays.
Cap maintenant vers le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Cette agence a 50 ans d'existence. En même temps, elle célèbre les 25 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement. Ce double événement, ainsi que la présentation du rapport sur l'état de la population mondiale en 2019, ont été abordés au cours d'un café de presse mercredi dernier à Kinshasa. Le point avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Le rapport sur l'état de la population a été décliné en 9 chapitres. Ces chapitres récapitulent les efforts réalisés et les nouveaux défis en matière de droits et la liberté de choix sur la santé reproductive. Dr Senen Houton, représentant de l'UNFPI en RDC.
Nous fêtons les 25 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement qui a consacré pour la première fois le lien entre les droits et le choix pour les femmes, les adolescentes et le développement. Nous avons une série d'activités pour célébrer cela et nous irons au niveau mondial nous retrouver à Nairobi pour analyser quels sont les progrès, les défis.
Il a été démontré également un lien entre la transition démographique et la lutte contre la pauvreté. Or, aucun pays au monde ne peut réussir ce combat sans la maîtrise des données statistiques de sa population, a reconnu le professeur Pierre Clissou, conseiller principal au recensement à cette même agence. Pour lui, les préparatifs pour un nouveau recensement en RDC sont en cours.
Nous avons pratiquement fini d'élaborer tous les outils techniques, questionnaires, les manuels, les fiches, tous les documents qui accompagnent ce processus.
Les activités commémoratives des 25 ans de la Conférence internationale du Caire débutent ce 11 juillet avec la célébration de la Journée mondiale de la population.
Comme cela avait été annoncé, la Cour pénale internationale a rendu son verdict contre Bosco Ntaganda, rendant ce dernier coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des faits remontant à 2002 et 2003 en Ituri. C'était le lundi 8 juillet 2019. Mais ce verdict reste encore un verdict de culpabilité. Il sera suivi plus tard de la peine correspondante lorsque la CPI aura consulté les parties lors d'une prochaine audience. C'est ce que le porte-parole de cette Cour en RDC a précisé le même jour au téléphone d'Honoré Missinga Kalala.
Seul ce qui a été rendu aujourd'hui, c'était le verdict, et c'était un verdict de culpabilité. Quant aux peines, les peines seront prononcées plus tard par les juges après avoir reçu les observations des parties et des participants.
Plus tard, il n'y a pas un délai par rapport à ça?
Non, à l'issue de l'audience d'aujourd'hui, les juges n'ont pas donné le délai par rapport au prononcé de leur peine. Ce que nous retenons de la décision qui a été rendue aujourd'hui, c'est qu'ils vont convoquer une audience séparée et à ce moment-là, ils vont annoncer quand aura lieu cette audience. Lors de cette audience, ils vont recevoir les observations des parties, des éléments de preuve et puis ils vont se prononcer sur la peine. De toutes les manières, les juges vont indiquer, donner la date du prononcé de la peine. Avant cela, ils vont indiquer la date de la convocation de cette audience et après, ils donneront la date pour le prononcé de la peine.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons sur le forum des opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables. Il a été organisé du 2 au 3 juillet par l'Association congolaise pour les énergies renouvelables (ACRD) en collaboration avec le programme Élan RDC et en partenariat avec l'Union européenne. Denis Banlier est le président de l'ACRD et directeur adjoint de la compagnie de télécommunications Orange. Il évoque ici les retombées de cette rencontre et les opportunités d'investissement dans ce domaine en RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Monsieur Denis Banlier, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à ce forum qui a été organisé par votre association, l'Association congolaise des énergies renouvelables. Est-ce que ce forum a répondu à vos attentes?
Président de l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées, effectivement, qu'on a lancé ici même d'ailleurs il y a environ un mois. Donc nous sommes une association d'entreprises privées. On a organisé ce forum avec Élan RDC et la contribution de UK Aid, en coopération britannique. Donc, un objectif, c'est de faire se rencontrer différents acteurs. Donc, vous avez hier des panels très différents, un panel sur la situation de l'énergie renouvelable en RDC, un panel sur le climat des affaires, nous avions notamment le directeur général de l'ANAPI et le responsable de l'Union européenne, un panel sur les investissements, avec de nombreuses banques commerciales ou internationales ou bailleurs de fonds représentés, et un panel sur le financement et vu du côté du consommateur, avec notamment des banques commerciales également et des représentants de la partie monnaie mobile. Des sujets assez larges qui se sont continués ce matin avec la présentation d'un certain nombre d'entreprises du secteur qui sont membres de la CERD d'ailleurs, donc il y a eu 6 sous cette présentation. Et puis ce qui se passe en ce moment, que vous avez pu voir tout à l'heure, qui sont des réunions bilatérales entre ces entreprises et puis des différents acteurs du secteur, notamment les banques, les bailleurs de fonds. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'échanges entre les acteurs et c'était l'objectif en fait de ce forum, c'est de faire se rencontrer les gens. Dans le domaine de l'énergie renouvelable, il y a beaucoup d'acteurs, à chaud je dirais, pour moi est plutôt un succès parce qu'effectivement les débats ont eu lieu hier, les rencontres bilatérales, les présentations des acteurs et de nos membres et les rencontres bilatérales ont lieu ce matin.
Mais quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui en tant que président de l'ARCRDC des énergies renouvelables en République démocratique du Congo?
La situation d'énergie au sens large n'est pas bonne, ça c'est évident. Et sur les énergies renouvelables, c'est pas suffisamment développé. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on parle beaucoup du potentiel hydroélectrique dans le pays, et en particulier du fleuve Congo. On a parlé beaucoup moins dans le passé du volet solaire, mais le potentiel solaire est pratiquement équivalent au potentiel hydroélectrique, donc il est très très fort. Il est peu développé aujourd'hui. On a eu l'occasion d'en discuter hier d'ailleurs dans le débat, puisqu'on a un sujet sur le traitement centralisé ou le traitement décentralisé. C'est vrai que le traitement centralisé, c'est-à-dire une production importante avec un réseau de distribution jusqu'au client, c'est un modèle qui existe, c'est un modèle qui est adapté pour les grosses entreprises. C'est un modèle qui est peut-être adapté pour les grandes villes où il y a une forte densité de population, mais c'est un modèle qui est très coûteux en investissement. Il y a d'autres solutions décentralisées que nous, du point de vue de l'association nous, et de ses membres, nous poussons, qui sont des solutions beaucoup plus légères, qui sont des solutions beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et rapides surtout. Si vous, si vous faites les gros projets hydroélectriques aujourd'hui, et il faut les faire, ils vont donner des résultats dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et il faut les faire. Si vous poussez l'énergie solaire notamment, vous pouvez avoir des choses qui vont changer la vie des gens beaucoup plus tôt. Donc on est convaincu qu'il faut mixer, il faut faire les deux. Et il ne faut pas penser que parce qu'on produit des dizaines de gigawatts en énergie hydroélectrique, la situation des Congolais va s'améliorer automatiquement. Ça ne suffira pas. Il faut un mix énergétique. Le problème est tellement large qu'il faut mobiliser toutes les solutions. Vous savez que la croissance démographique du pays est importante. On estime que c'est à peu près 3 millions de personnes par an. Donc aujourd'hui, la situation du pays est mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a moins de 10% de la population qui a accès à l'énergie.
Je voudrais en arriver là, monsieur Banlieue. On remarque que seulement moins de 10% des Congolais ont accès à l'électricité, donc à l'énergie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette situation? D'un côté, il y a des potentialités, de l'autre, l'accès à l'énergie.
Globalement, un sous-investissement dans le secteur, compte tenu de la croissance de la population, et je pense que c'est aussi le discours d'ailleurs de la SNEL, hein, d'expliquer effectivement que le secteur n'a pas suffisamment investi. Et puis il y a un autre aspect, c'est que tout le monde s'accorde à dire, c'est que le développement passe par le développement du secteur privé. Donc il y a eu la libéralisation du secteur de l'énergie il y a quelques années. Cette libéralisation, elle est faite sur le papier. Dans la pratique, est-ce qu'elle fonctionne? Pas suffisamment. Et précisément, un des objectifs de l'association en tant que regroupement d'acteurs du secteur privé, c'est d'amener cette action, ce dynamisme, cette adaptation au marché du secteur privé. Donc nos membres sont là pour ça. Ils ont besoin de grandir parce que si on arrive à développer le secteur privé dans le secteur de l'énergie, il est évident qu'on va commencer à améliorer la situation des Congolais, ce qui est notre objectif à tous, évidemment.
Mais l'une des difficultés qui a été évoquée, qui se présente comme un défi aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de personnel congolais qui est formé. Donc, est-ce que votre association pourra aider tant soit peu les Congolais à avoir quand même une certaine expertise dans ce domaine des énergies renouvelables?
L'intérêt de cette séquence du mois de juin, c'est effectivement, que ce soit le lancement ou aujourd'hui, c'est que ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs. On a rencontré notamment l'INPP, qui a été présente dans tous nos événements et qu'on va travailler avec eux, effectivement. L'INPP a besoin, et d'autres acteurs du monde éducatif, a besoin de se rapprocher des entreprises pour analyser les besoins du secteur. Ce qui est certain, c'est que les énergies renouvelables, le secteur privé, a besoin de gens qui sont dans le domaine technique solaire, mais aussi dans le domaine commercial, comme d'autres industries.
Et après cette forum, qu'est-ce que votre association compte faire sur le plan de la continuité du suivi?
Un des premiers effets du plan de communique de juin, c'est que nous allons être plus nombreux, donc il y a beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent, ce qui est une très bonne chose, puisqu'on sera bien plus efficace si on est plus nombreux. Ces échanges ont aussi permis vous avez entendu le responsable de l'UCM, l'unité de coordination des ministères de l'énergie, qui ont organisé des assises de l'énergie auxquelles on participera évidemment. Mais encore une fois, nous, on est là pour défendre nos membres, pour développer le secteur privé, parce que c'est un élément essentiel pour améliorer la situation énergétique du pays et des Congolais.
Denis Banlieue, je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bref, lutte contre les violences sur les genres en territoire de Niragongo, Nord Kivu. L'ONU Femmes a lancé mercredi dernier à Moudja un projet d'appui à la réinsertion des femmes et de renforcement des capacités. Ce projet, financé par la section DD3R de la MONUSCO, sera exécuté par deux partenaires, Heal Africa et l'ONG jésuite JRS. Ce projet a également un volet psychosocial pour accompagner les femmes victimes de violences sexuelles. Le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNICEF et de Médecins sans frontières, lance une campagne de vaccination contre la rougeole dans la province de l'Ituri, au nord-est de la RDC. Selon un communiqué de l'UNICEF daté du 11 juillet, cette campagne cible 67 000 enfants dans cette province ravagée par un conflit armé et foyer de la deuxième épidémie d'Ebola la plus meurtrière de l'histoire. Au moins 1981 décès dus à la rougeole ont été signalés cette année en RDC, dont plus de 2/3 d'enfants de moins de 5 ans. Au 23 juin, près de 115 000 cas suspects de rougeole avaient été signalés, soit beaucoup plus que les 65 000 cas enregistrés en 2018. L'Ituri, l'une des deux provinces frappées par l'épidémie d'Ebola, a enregistré plus de 5 400 cas et 50 décès, indique le communiqué. Enfin, à Kinshasa, 50 officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise ont suivi du 9 au 11 juillet dernier une formation sur la gestion des grands événements. Cette activité, initiée par le commissaire général Dieudonné Amouli, a été réalisée avec l'appui de la police de la MONUSCO UNPOL. Celle-ci a été représentée à l'ouverture de la formation par son chef, le général Awale Abdounazir. Dans son mot de circonstance, le chef de la composante police de la MONUSCO a mis l'accent sur le fait que la gestion des grands événements n'est pas que policière. Elle implique que tous les acteurs, y compris le citoyen, en soient responsabilisés en amont.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité ce dimanche, c'est le représentant spécial adjoint AI du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations. François Grignon a présenté ses civilités au gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzu Kasivita, sur sortir de l'audience que le remplaçant de David Wesley s'est prêté aux questions de Jules Ngala Wamona.
Monsieur Grignon, vous venez d'être reçu par le gouverneur. De quoi il a été question dans votre entretien?
Écoutez, je viens de prendre mes fonctions comme représentant spécial du secrétaire général adjoint en charge de la protection par intérim ici à Goma. Et l'objectif était de venir rencontrer son excellence le gouverneur, d'avoir une première échange de vues sur notre partenariat. Le mandat de la mission est vraiment axé sur la protection des civils et la stabilisation en partenariat étroit avec les autorités nationales et provinciales. Et donc, il était important de venir le rencontrer immédiatement.
Vous remplacez M. Grisley. Est-ce que vous avez la même philosophie dans la mission?
Écoutez, oui, M. Grisley donc, a été nommé pour assurer la coordination de la réponse face à l'épidémie Ebola, donc dans les territoires de Beni et Butembo. Et je suis arrivé pour assurer ses fonctions dans les mois qui viennent. La philosophie est effectivement une philosophie d'engagement actif au service de la population avec le gouvernement pour relever les défis. Nous avons des défis dans la province et dans plusieurs autres provinces du pays, mais il y a aussi des opportunités. Il y a vraiment, je pense, des fenêtres d'opportunités qui doivent être saisies pour réussir à traduire les progrès de ces dernières années et à les consolider. Donc c'est en fait, je pense, la philosophie de la mission aujourd'hui, c'est de reprendre avec le plus de vigueur possible et le plus d'engagement possible les efforts qui ont été faits pour la stabilisation du pays avec les autorités nationales, avec la société civile, avec l'ensemble de la population, de sorte à ce que nous puissions aboutir à un règlement des problèmes existants et à une stabilisation pérenne.
Parmi les partenaires, il y a les autorités bien sûr, mais il y a aussi la population dont une frange estime que la MONUSCO n'est pas suffisamment impliquée dans sa protection par le simple fait qu'ils se retrouvent confrontés aux groupes armés, ils doivent fuir ça et là. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Effectivement, notre travail est un travail de partenariat avec les autorités et avec la population et avec la société civile. Donc ce partenariat est destiné à leur bénéfice. Bien sûr, je pense qu'il y aura toujours des critiques liées aux limites de notre action parce que nous avons des moyens limités. Nous avons des limites opérationnelles, des limites budgétaires, des limites en termes de personnel. Mais je crois qu'avec les moyens que nous allons pouvoir continuer à faire du travail. Et c'est le travail aussi de la société civile, bien sûr, d'apporter un regard critique sur les institutions nationales et internationales. Donc ce dialogue est essentiel et je pense que nous devons à la fois le respecter, même l'encourager, mais nous devons le faire dans une logique de partenariat constructif et je vais essayer, bien sûr, d'y œuvrer.
La population doit attendre de vous une franche implication.
Mon implication sera totale, elle peut s'y attendre et je suis, si vous voulez, venu avec vraiment la volonté de faire le maximum. De faire le maximum pour essayer de contribuer à la stabilité du pays et à la sécurité des populations. Je ne dis pas ça sera facile, je ne dis pas que nous pourrons réduire tous les problèmes de la province, loin de là, c'est un chemin qui va prendre du temps, mais sur la base d'un partenariat solide et, je dirais, constructif, nous pouvons faire des progrès.
Merci beaucoup.
Merci.
Rendons-nous à Kananga, au Kasaï central, où plus de 80 victimes de la crise Kamuna-Sapu vont bénéficier d'un projet de réinsertion socio-économique. C'est une initiative de l'ONG Terre d'origine TDO lancée mardi dernier grâce au financement de la section DD3R de la MONUSCO à hauteur de plus de $50,000. Plus de détails avec Blaise Ondongala.
Les bénéficiaires de ces projets ont reçu chacun un kit au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de la maison communale de Langanza. Chaque kit est composé de des lapins, des canards et des poulets. L'un d'eux a salué cette initiative de la mission onisienne qui vise à faciliter leur intégration sociale et économique après la crise qu'a connue la région.
Nous remercions la MONUSCO et nous demandons auprès d'eux qu'ils multiplient des choses comme ça pour améliorer la vie.
De son côté, l'assistant à la section DD3R de la MONUSCO a indiqué que ces projets se proposent également des renforcer la cohésion sociale à travers la sensibilisation à la paix et à la réconciliation au sein des communautés. François Kabasele.
Un projet qui touche les auto-démobilisés de la milice Kamuna-Sapu, les femmes vulnérables et les jeunes à risque des conflits que la communauté de Nganza a connus. Le projet vise à ce que les communautés puissent vivre ensemble parce qu'en dehors de la réinsertion en tant qu'équipe, il y a aussi l'aspect sensibilisation autour du dialogue communautaire.
Le bourgmestre adjoint de la commune de Nganza a par ailleurs souhaité voir la MONUSCO multiplier de telles initiatives au profit des vulnérables. Pour Nembachi Diadia, ce sera l'une des voies de lutter contre la pauvreté à Kananga et ses environs. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
À quand le nouveau recensement de la population congolaise et quel est l'état des préparatifs aujourd'hui? C'est la question que Jean-Pierre Elali Koko a posée lors du dîner de presse organisé par l'UNFPA mercredi dernier à Kinshasa. Le professeur Pierre Clissou, conseiller principal au recensement dans cette agence, répond.
Nous avons pratiquement fini d'élaborer tous les outils techniques, questionnaires, les manuels, les fiches, tous les documents qui accompagnent ce processus sont prêts. La RDC a choisi de faire ce deuxième recensement grâce aux nouvelles technologies, donc l'utilisation des tablettes. Le budget du RGPH tourne autour de $200 millions. La RDC n'a pas ses ressources, doit aller vers une table ronde des partenaires du RGPH. Et c'est ça que nous préparons tout doucement.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Une seule date à retenir pour la semaine qui commence le 20 juillet, journée africaine de l'écologie. Merci à la Maïdia, à la technique. Moi, c'est Babel Pongo Massimango. Je vous ai présenté cette émission qui a connu la coordination et la réalisation de Jean-Pierre Elali Koko, qui est également au reportage. Honoré Mistena Kalala au reportage également. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dimanche prochain. Excellente condition d'écoute. Le programme de Radio Okapi, la fréquence de la paix.